Chapitre deuxième. Faites remettre ma carte. Si M. Norton est chez lui, il me recevra. Le valet, à qui s'adressait cet ordre, donné d'un ton ferme, ou sous une politesse douce, se faisait sentir l'habitude du commandement, regarda l'homme qui lui parlait. Un jeune homme, ou plutôt un homme jeune, brun, mince, la barbe entière, taillé en pointe, la redingote serrée à la taille, quelque officier en tenue bourgeoise et sans décoration à la boutonnière. Les valets, dans la villa normande de M. Richard Norton, habitués à une marée de solliciteurs arrivant là, même à Trouville, au seuil de la maison de l'Américain, avec une vitesse et un fracas de mascarets, ne voyaient que rarement dans l'antichambre des figures françaises et dans la réponse que fit au jeune homme le domestique, après avoir déposé sur un plateau d'argent la carte donnée, il y avait une nuance toute particulière de respect. « Si monsieur le marquis veut se donner la peine d'attendre ?» Et le valet, qui venait de jeter un leste coup d'œil sur la carte et d'y lire un nom, marquis de Solis, ouvrait cérémonieusement la porte d'un petit salon du rez-de-chaussée donnant sur le vestibule et y introduisait le marquis. Monsieur de Solis s'assit, et très étonné de trouver un tel cérémonial dans cette façon de chalet luxueux, regarda autour de lui les tableaux accrochés dans ce petit salon meublé comme un Trianon, blanc et or. Les maîtres illustres y étaient représentés par quelques toiles, une aquarelle ou un morceau de choix. Mais ce n'était évidemment là que de petits échantillons de la collection de Richard Norton, dont la galerie à New York comme à Paris était célèbre. Le marquis entendait en même temps le valet appeler quelqu'un, dans un cornet acoustique, du bas de l'escalier, pour savoir si M. Norton, dont le cabinet de travail se trouvait évidemment au premier ou au second étage, sur la mer, était visible. M. de Solis avait, un moment, hésité à se présenter chez Norton, à remuer tout à coup un passé qui lui était cher. Il l'aimait, ce Norton, pour l'avoir connu là-bas, au Nouveau Monde, où M. de Solis était allé étudier les vignes américaines, voulant essayer de défendre ce qui pouvait être sauvé encore de la fortune de la marquise, sa mère. Libre, célibataire, voyageur par goût, et depuis quelques années par une sorte de besoin physique et moral, comme s'il avait eu à secouer dans la fièvre des déplacements, quelque obsession lassante, M. de Solis avait trouvé peu d'hommes qui lui fussent plus sympathiques et qui, pour tout dire, fussent, comme l'Américain, des hommes. Et par une ironique destinée, dans cet homme respecté, dans cet ami dont le marquis emportait le souvenir à travers la vie, le hasard avait voulu que Solis dût rencontrer l'être insolemment heureux, né précisément pour lui prendre, sans le savoir, pour lui arracher la femme aimée. Tout un roman inachevé, volontairement inachevé, dans le déchirement du sacrifice, dans un monde de rêves finis, chassé, se dressait là, tout à coup, pour Solis, lorsque le docteur lui avait annoncé la présence à Trouville de Richard Norton et de celle qui s'appelait Mrs. Norton. Madame Norton. Elle portait un autre nom lorsqu'il l'avait rencontrée il y a 4 années déjà, à New York, chez M. Harley, son père. Et lorsque, dans les causeries de jeune homme à jeune fille, dans les confidences irréfléchies, plus intimes chaque jour, il s'était laissé aller et avouer presque à cette Sylvia, Sylvia. L'écho de ce nom était ce qu'il restait de se passer. Tout un amour grandissant, le seul amour vrai qu'il eût éprouvé de sa vie. Et elle-même, cette Sylvia, ne semblait-elle pas l'aimer? Ne lui disait-elle point, dans la douceur du regard, dans la pression plus lente du shake hands, dans les paroles mêmes tombées de cette bouche d'enfant rieuse et pourtant grave aussi? Comme il l'avait aimée dans sa fierté, dans ce calme un peu hautain qu'elle avait, dans ses yeux, clairs comme une vague traversée du soleil, qu'elle fixait sur lui comme pour en lire en lui, et qui, sous les sourcils d'un blond chaud, les cheveux fauves, le front pensif, luisait avec une acuité étrange. Il était résolu à en faire sa femme, si elle consentait et si M. Harley, le banquier, voulait donner sa fille à un Français. De Sylvia, Georges de Solis était sûr. Il n'avait qu'à parler, il allait parler, et voilà qu'une dépêche alarmée, pressante, de Madame de Solis, rappelait tout à coup le marquis en France. Il fallait que le fils revînt pour disputer à l'acharnement féroce des créanciers la fortune des Solis. Alors le marquis rentrait au pays, luttait, arrachait aux griffes d'âpres coquins ce que son père, affolé de spéculations malheureuses, pouvait encore avoir laissé. Mais devant les débris de cette fortune, suffisante pour sa mère et pour lui, insuffisante pour la fille du banquier Harley, le marquis n'osait plus laisser échapper la demande et l'aveu qui lui brûlait les lèvres. Il attendait. Il comptait sur quelque hasard heureux, et le temps passait. Et là-bas, Sylvia oubliait sans doute, se croyant oubliée. Et le jour où Solis apprenait que Miss Harley devenait la femme d'un autre, il partait, courant le monde, pour échapper à sa propre pensée, à sa souffrance, comme une bête blessée, qui espérant secouer en courant la douleur de sa blessure. Mais on ne secoue que les gouttes de sang en ces fuites éperdues. Le marquis avait promené sa tristesse et harassé sa curiosité à travers ses voyages, missions de savant ou séjours qu'il s'imposait à lui-même dans l'Extrême-Orient. Il avait usé son temps, sa vie, mais rien en lui n'était cicatrisé. L'oubli n'était pas venu, et lorsque le docteur avait parlé de Norton, un serrement de cœur rendait le marquis tout pâle. Car il avait fallu, pour que la perte de cette Sylvia fût plus complète, il avait fallu que l'homme qui avait fait d'elle sa femme fût précisément, par une ironie mauvaise, un être qu'il avait aimé profondément, un de ceux qui se donnent et à qui on se donne dès le premier regard, dans la première poignée de main. Solis ne se rappelait pas que Norton lui eût jamais parlé de Miss Harley, et pourtant, liés intimement l'un à l'autre, ces deux hommes avaient échangé bien des confidences autrefois. Solis, recommandé à Richard Norton par le représentant des États-Unis à Paris, ancien compagnon de Norton, avait été l'hôte de Richard dans des établissements miniers que le Français voulait étudier, et leur relation, née du hasard, s'était, comme le feu s'assiérise au feu, changée en amitié dévouée, complète, dans l'épreuve du péril. Les sympathies vraies ne s'expliquent point, du reste. S'ils se fussent vus pour la première fois dans un salon, ils se fussent aimés en supposant qu'ils eussent pu causer en toute liberté de cœur, comme là-bas, dans le tête-à-tête des journées longues, où Norton expliquait et Solis écoutait. Et le marquis s'en souvenait fort bien. Jamais Norton n'avait laissé deviner qu'il connaissait Miss Harley. Il ne la connaissait peut-être pas alors. Il l'avait rencontrée depuis, il s'en était épris, il avait demandé sa main. George saurait les détails de tout cela dès sa première causerie avec Norton. Il avait comme une hâte fiévreuse à le revoir. Le revoir ou la revoir? Il n'osait même pas se poser la question à lui-même. Mais, avec cette faculté presque cruelle d'analyse intime qu'ont certaines âmes, il sentait qu'il entrait plus de joie dans son envie de retrouver Norton et plus de terreur dans son esprit de revoir Sylvia. Il avait d'ailleurs fait, sans presque réfléchir, machinalement, comme d'instinct, le chemin qui conduisait à la villa Norton, et il se trouvait devant la porte, prêt à sonner, bien mieux ayant sonné, et se demandant encore s'il ne ferait pas mieux de prendre le train de Paris et de quitter Trouville, sans avoir revu cet homme qu'il aimait et cette femme qu'il avait timidement, silencieusement adorée. Il hésitait encore presque, dans ce salon d'attente où on l'avait introduit, il regrettait d'être venu, il se disait qu'il eût mieux valu, pour lui-même et pour elle, n'avoir jamais retrouvé ce passé. Un coup de sifflet traversa l'antichambre comme quelques commandements à bord d'un navire, et le valet rentra, priant monsieur le marquis de le suivre. Solis, précédé par le domestique, monta un escalier à rampe de bois sculpté où des faïences de prix étaient accrochées. Les couleurs des vieux rouans répondant aux vieux reflets mordorés des plats mezzo-arabes. Et au second étage de la villa, aussi luxueuse qu'un hôtel des Champs-Élysées, Georges de Solis se trouva devant un laquais qui, cérémonieusement, lui ouvrit la porte d'un vaste cabinet de travail, donnant par un large window sur la mer, une porte au seuil de laquelle le jeune homme se trouva en face d'un grand gaillard barbu et souriant, la voix forte et la large main tendue et qui, joyeusement, lui cria avec un accent yankee assez prononcé « Ah, la bonne aubaine !» Et la voix de Norton sonnait clair comme une fanfare. « Embrassez-moi donc, et asseyez-vous, cher. Quel bon vent vous amène !» Les deux hommes s'entre-regardèrent un moment avec cette curiosité instinctive de gens qui, en s'interrogeant ainsi des yeux, sautent par-dessus les années passées, et Georges de Solis retrouvait, avec un plaisir vrai, toute autre pensée disparue pour une minute, son ami Norton tel qu'il l'avait quitté, bâti à chaud et à sable, la carrure large avec des épaules de cariatide et des poignets de lutteur. Le front volontaire où l'ossature sous la peau semblait de pierre s'encadrait d'une chevelure rousse un peu grisonnante aux tempes et les lèvres rasées énergiques, franches, la longue barbe au menton, les oreilles écartées du visage, la tenue même un peu puritaine, une redingote longue boutonnée sur ce grand torse solide. Rien. Chez l'Américain n'avait changé, subi d'atteinte, et à son tour, Norton, de ses yeux gris enfoncés dans des sourcils hérissés en broussaille, interrogeait le visage du marquis et disait gaiement « Vous êtes toujours le même. »« Oh, j'ai plus de bistre à la peau et moins de cheveux sur la tête. Les voyages... »« Et d'où venez-vous ? » ?»«
D'un peu partout, du diable. »
« J'étais allé chez vous dès mon arrivée à Paris.
Personne.
Votre mère en province, vous ? » ?»«
En Indochine. » »«
Mais aujourd'hui, ma mère, que j'avais retrouvée à Solis à mon retour, et moi, nous avons quitté les Landes et je viens essayer de donner un peu de santé et un bain d'air à ma chère bien-aimée. » »«
J'aurais pu aller à Biarritz, qui est plus près de Dax, mais à Paris, où il y a toujours plus d'occasion de vente ou d'achat, j'essaierai de vendre, après cette saison d'eau, une de nos propriétés. »
Qui nous rapporte plus qu'elle coûte. Et mon projet est ensuite d'aller m'enterrer à Solis avec ma mère.
Vous me ferez l'honneur de me présenter à elle ?
Dit Norton.
Avec joie. Elle vous adore, vous savez.
Oh, elle m'a fait 100 fois raconter comment vous m'avez si joliment empêché d'être rôti tout vif le jour de cet incendie dans votre mine de pétrole. Ce que j'ai pensé souvent à notre aventure. Nous sommes sortis de là. Je vous vois encore, quand j'ai repris à peu près connaissance, moi, à demi asphyxié, vous, la barbe grillée et les cheveux rasés par le feu.
« Vous voyez qu'ils ont repoussé, »
fit Norton en riant.
« Et ne parlez pas de cela, surtout, mon cher George. S'il y a quelqu'un qui, ce jour-là, est, comme on dit dans les romans, sauvé l'autre, c'est vous.
Parfaitement, c'est vous. Je vous ai tiré du brasier, où un faux pas vous avait fait tomber, mais vous n'y étiez, mon cher, venu que pour m'en arracher, moi. » Et sans votre intervention, j'étais parfaitement assommé par les poutres.
Oh, tout net.
Et réduit à l'état de charbon par-dessus le marché. Si vous racontez de cette façon-là vos voyages à Madame de Solis, elle n'en doit savoir que la moitié. C'est trop de modestie, et il est temps que j'arrive pour faire connaître la vérité.
Eh bien, soit, fit le marquis en souriant.
Nous nous sommes rendus mutuellement le service de nous conserver la vie, si c'est un service.
Ex aequo.
D'ailleurs, c'est déjà vieux tout cela,
5 ans.
Et vous savez, Norton, je vous dirai avec plus de vérité ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous n'avez pas changé.
Si, vous avez rajeuni.
Quand on a dépassé la quarantaine, c'est ce qu'on a de plus spirituel à faire.
Et puis, il faut bien rajeunir.
Oh, je ne suis plus l'espèce de trappeur que vous avez connu, vivant presque d'une vie de manœuvre au milieu de ces ouvriers là-bas. Je me suis... Comment diriez-vous, adouci, féminisé, pour plaire à la chère femme que j'ai épousée.
Richard Norton avait mis dans ce peu de mots un instinctif attendrissement, et Solis, très ému, maître de lui-même pourtant, et essayant de paraître, non pas indifférent, intéressé au contraire, mais comme un ami, au bonheur d'un ami, Solis devinait que cet homme éprouvait une sorte de besoin violent, parler de l'adorer.
« C'est vrai, vous êtes marié, » dit le marquis.
« Et à la meilleure des créatures. Ah, que je regrette que Mrs. Norton soit sortie. Elle sera si heureuse de vous revoir. »«
Ah ?» fit le jeune homme.
« Vraiment, Madame Norton me fait l'honneur de se souvenir de moi. »«
De vous, cher. Mais nous parlons souvent de vous, très souvent. »
Solis cherchait un compliment, un remerciement. Il ne trouvait pas. Chose étrange. Ce que lui disait là Norton, au lieu de lui être agréable, lui amenait une souffrance. Elle parlait de lui. Lui, au contraire, gardait son nom en sa mémoire, précieusement, comme en un sanctuaire. Il pensait, repensait à elle et n'en parlait à personne. Elle parlait de lui, indifférente, consolée, heureuse. Et ce souvenir que lui gardait Sylvia le torturait plus que le silence même et que l'oubli. « C'est la plus charmante des femmes, » reprit Norton, « un peu souffrante. »
« Ah ? » dit Monsieur de Solis.
« Oui, c'est pour sa santé que je me suis décidé à me fixer à Paris. Le docteur Farjas fait des miracles lorsqu'il s'agit des maladies de nerfs. Et c'est de cela que souffre Sylvia.
Oui.
Elle a hérité de sa mère, fille d'un Virginien, un grand chasseur et surtout grand mangeur et grand buveur, que la goutte avait tué, un fond de tempérament arthritique. Et si l'hérédité maternelle se fût bornée là, tout eût été pour le mieux. Mais elle lui a communiqué cette impressionnabilité extrême, maladive. Le climat de New York, avec ses alternatives de chaleur torride et de froid glacial, ne lui valait rien. Un ou deux étés dans la Floride ne suffisaient pas à la remettre en bon état. Et puis, encore une fois, je ne crois qu'à Farjas. J'ai pour Sylvia la superstition de Farjas. Instinctivement, Georges de Solis ferma les yeux rapidement. Ce nom de Sylvia entendu là, prononcé tout haut, pour la première fois depuis des années, lui causait une impression singulière. Il le saluait de la paupière comme un soldat salue de la tête la première balle. Norton, lui, continuait ses confidences, parlant de Sylvia avec l'effusion débordante de l'homme qui aime, puis il s'interrompit, disant avec une émotion profonde « Voyez ce que c'est que l'amitié. Il n'y a pas 5 minutes que vous êtes là, mon cher Solis, et je vous dis à vous, tout naturellement, ce que je ne dirai à personne, ce que je ne m'avoue que vaguement à moi-même. Ne parlons plus de cela, parlons de vous. » Ils étaient assis en face l'un de l'autre, devant le window, à 2 pas d'une table, où, sous des presse-papiers, des dépêches, des lettres, des brochures s'entassaient, méthodiquement classées, annotées, réunies par des épingles. « Un cigare ?» dit Norton. « Merci, vous savez bien que je ne fume pas. C'est juste. Eh bien, depuis si longtemps, qu'êtes-vous devenu, cher ami ?» Solis hocha la tête. « Ce que je suis devenu, rien. J'ai voyagé pour me désennuyer, allant en Anname comme j'étais allé aux États-Unis, comme j'aurais flâné sur le boulevard. Avec plus de profit pour la science, pourtant. J'ai lu dans la revue un travail sur la colonisation de l'Extrême-Orient, qui me paraît assez pratique. Et pour l'écrire, il était inutile d'aller si loin. C'est peut-être à Paris qu'on apprend le plus de choses, même sur les pays lointains. J'ai trouvé au club des amis qui, sur ce que j'avais vu au Tonkin, en savaient, je vous jure, autant que moi. Le télégraphe leur apprenait en 10 lignes et en 2 minutes ce que je mettais 2 mois à découvrir. Et puis, le voyage, c'est très joli quand on n'emporte pas un peu d'ennui, des souvenirs, avec ses bagages. Des souvenirs, votre mère. Ah, la chère sainte, fit M. de Solis. Son souvenir à elle m'eut rendu le courage, mais il y en avait d'autres. Oubliez cela, d'ailleurs, j'espère. Oui, perdu en route, laissé en chemin, avec ma poudre brûlée et mes cartouches vides, je suis venu avec la résolution formelle d'en finir avec les aventures et de vieillir auprès de ma cheminée, heureux, comme vous, marié, comme vous. Heureux, fit Richard en hochant la tête. Voyons. Et le marquis essayait de sourire après s'être contraint à chasser les souvenirs qui lui montaient au cœur. « Voyons, Norton, connaîtriez-vous une jeune fille qui voulut d'un brave garçon un peu attristé, mais point maussade, désillusionné sur bien des points, mais pas à la mode, peu pessimiste. Mon cousin Bernière se charge de cette spécialité-là, et gardant encore assez de foi, de passion, pour commettre au besoin quelques folies et même pour se résigner à la sagesse. Ma mère tient à ne pas me voir devenir vieux garçon. Marions-nous donc. Et après tout, le voyage au coin du feu est le seul que je n'ai jamais fait. Aussi bien, c'est résolu. J'ai un peu peur du mariage, comme on a peur que l'eau ne soit pas trop froide au premier bain. Mais je suis décidé à me jeter à la nage. Avez-vous quelqu'un pour m'apprendre à nager, Norton ? L'Américain n'avait pas quitté des yeux le marquis, tandis que M. de Solis parlait, laissant sous cette gaieté factice deviner quelque ironie douloureuse, une souffrance, le parti pris d'un homme qui a soif de nouveau, parce qu'il a soif d'oubli. Alors, se marier, c'est pour vous se jeter à l'eau. Eh bien, mais c'est galant pour votre professeur de natation, dit Norton. Je ne connais personne digne de vous, sérieusement. Si je voyais une jeune fille remarquable parmi nos Américaines... Non, oh non, pas une Américaine, dit vivement Solis. Et pourquoi? Je n'épouserai jamais une Américaine. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a assez de froissement possible dans le mariage, avec la différence des caractères, sans y ajouter la différence des races. » Le marquis était presque grave et si sérieux que Richard Norton ne put s'empêcher de sourire. « Si mes compatriotes vous entendaient, elles seraient capables de vous arracher les yeux. Elles sont jolies pourtant, les Américaines, et exquises, et sérieuses, et dévouées sur leurs airs excentriques.
Je le sais bien, fit Solis.
D'ailleurs, puisque vous voulez vous marier,
pour vous marier, presque au hasard,
je ne comprends pas, je l'avoue,
qu'on traite d'une affaire aussi grave comme une loterie.
Du moment que c'est une affaire, dit le marquis, gardant toujours son pli de lèvres agressif.
Les yeux gris de Norton ne le quittaient point, comme si l'Américain eût voulu deviner le secret de cette tristesse qui n'existait pas autrefois dans l'esprit de Solis.
Une affaire. J'en suis bien certain, pourtant, mon cher George, que la dot vous est indifférente.
Absolument.
D'autant plus qu'en Amérique, la dot n'existe pas, ce qui enlève au mariage je ne sais quelle odeur d'argent, qu'il garde un peu beaucoup dans votre France. Vous avouerez que pour un peuple de négociants, ce dédain des banknotes ne manque pas d'une certaine tournure.
Solis était un moment demeuré sans répondre, regardant sur la cheminée une étrange pendule dont le balancier était un pilon d'acier.
Je ne songe pas du tout, fit-il, l'œil toujours fixé sur ce balancier, mais pas du tout à critiquer vos mœurs ou vos jeunes filles, en vous disant que je n'épouserai point une Américaine. Pas plus que je n'entends parler d'un marché quand je prononce ce vilain mot, une affaire. Je dis seulement que lorsqu'on n'a pas épousé celle qu'on devait aimer, il faut peut-être laisser au hasard le soin de nous faire aimer celle qu'on épousera.
Ah, par exemple, voilà une jolie théorie, dit Norton, riant un peu.
Ce n'est pas une théorie, c'est une des mille nécessités où nous réduit la vie actuelle, telle qu'elle est faite.
Vous avez, vous, le marquis parlait lentement, risquait ses paroles une à une, comme un homme marcherait avec précaution, pas à pas, sur quelque étang gelé.
Vous avez la chance, sans nul doute, Norton, d'avoir fait un mariage d'amour.
Il affectait de regarder la mer au loin, par le window entrouvert, mais ses yeux épiaient le visage de Norton.
J'adorais la jeune fille à qui j'ai demandé sa main,
répondit l'Américain très gravement.
Solis riposta, la voix haute.
Moi, j'ai adoré une femme exquise à qui je n'ai pas osé dire que je l'aimais.
Je vous répéterai encore, pourquoi?
Vous étiez riche, fort riche, et vous pouviez offrir avec votre fortune votre nom à qui vous vouliez.
Sans doute.
Moi, dit M. de Solis, j'étais assez pauvre, comparativement à cette jeune fille, et je ne pouvais pas, je n'osais pas lui dire de partager une existence qui lui semblait mesquine, comparée à celle qu'elle avait jusque-là menée chez son père. Et mon amour me criait de parler, et mon orgueil m'ordonnait de me taire.
Il est dommage que cette jeune fille n'eût pas été une Yankee, comme vous dites. Vous auriez été plus à l'aise.
Je sais une jeune fille dont le père a 500 000 $ de rente et qui a épousé un pasteur de Tennessee,
lequel a sa Bible pour toute fortune.
Elle est très heureuse.
Bah, mon cher George, une femme console d'une femme.
Il y a un proverbe espagnol qui dit
« La tache de sang de la mûre, une autre mûre l'efface ».
Vous en verrez chez moi au parc Monceau des Américaines, brunes, blondes, rousses, et de délicieuses, de capiteuses et de charmantes, et c'est peut-être,
en dépit de vos restrictions sur la race, l'une d'elles qui effacera l'image de votre compatriote.
Peut-être, répondit M. de Solis. Puis, regardant toujours cette pendule où l'œuvre d'art se faisait machine, il ajouta
« Je ne crois pas. »
L'Américain haussa les épaules.
« Parbleu,
on ne croit jamais ces choses-là jusqu'au jour où on s'aperçoit que ce qu'il y a de plus rapide après l'oubli des vivants disparus, c'est l'oubli des sentiments qu'on croyait éternels.
Et c'est bien naturel.
Mais, mon cher Georges, si l'on passait sa vie à ne se consoler de rien, on ne vivrait pas.
Et il faut vivre. »
En avant, toujours en avant. C'est notre devise nationale.
Et c'est ma devise particulière.
Je ne passe point ma vie à m'attarder au fantôme du sentiment.
Monsieur de Solis regardait autour de lui pendant que Norton lui parlait, et il éprouvait à se trouver là, à Trouville, dans le cabinet de l'Américain, presque pareil à un office de New York, la sensation d'un voyage, une sorte d'impression d'exotisme. Jusqu'en cette maison du bord de la mer, Norton avait apporté sa marque particulière et l'estampille de ses goûts personnels. Ce cabinet de villa normande avait en effet un caractère spécial. Au milieu du luxe de cette construction fantaisiste, de ces bibelots qui rappelaient à Trouville l'hôtel de la rue Rembrandt, cette pièce d'aspect sévère, égayée seulement par la trouée de la mer, de la lumière, par le window. Ce grand cabinet ressemblait à la vaste cellule d'un laborieux. Des tableaux, mais peu nombreux, et à côté d'un cavalier de Velázquez, argenté comme une vieille orfèvrerie, une aquarelle représentant, sur une mer déplorablement bleue, un yacht portant le nom de Madame Norton, Sylvia. Le cadre de cette marine, signé d'un artiste américain, touchant presque un paysage où, à l'ombre de pins gigantesques, quelques-uns entamés, couchés à terre et déjà débités, une petite maison de pionnier laissait envoler sa fumée douce comme un soupir d'idylle. La maison, l'humble maison de Norton le père. Le logis où, tant de fois, le soir, sous la lampe à pétrole, le vieux Norton avait lu la Bible à ses 5 enfants, groupés autour de la table où brillait encore la cognée du défricheur de bois. Un tableau que Richard transportait partout où il allait, accroché au-dessus de sa tête, comme un russe, l'icône sainte dans son isba. Toute la vie de Norton tenait en ces deux images. La maisonnette de bois, c'était la famille. Le vieux couché maintenant sous le marbre d'un monument de pierre portant ce nom, glorieux comme celui d'un fondateur de dynastie, Abraham Norton. C'était le père, la mère au bon sourire, les sœurs, mariées maintenant, et les deux frères, tous deux tués pendant la guerre de sécession sous le drapeau étoilé. Le yacht, c'était la vie présente, l'amour profond d'une existence, l'unique amour, la récompense de toute une vie laborieuse, la femme adorée, la chère Sylvia. Au-dessous de ces images, de petits corps de bibliothèque en ébène, laissant à portée de la main des livres en nombre restreint mais choisis, utiles, traités de physique, de chimie ou de morale, cette chimie de l'âme. Sur une étagère, des minerais aux étiquettes à l'encre rouge, pépines d'or ou échantillons de charbon, un modèle de locomotive, bijoux de mécanisme à côté d'un téléphone. Puis, sur la cheminée, comme le cachet même de l'américanisme du maître, la pendule caractéristique, celle dont le balancier était un pilon d'acier montant et descendant avec une régularité de chronomètre, et dont chaque mouvement marquait une seconde, comme si, au tic-tac léger de la pendule d'Europe, Norton préférait la constatation du temps faite par un horloger utilitaire. Cette pendule, que M. de Solis regardait, semblait aussi dire en sa langue de fer « Go ahead ». Et de son pilon, où la lumière du dehors accrochait des reflets d'acier, écrasait ce que Richard Norton appelait les fantômes du sentiment. « Ce que vous me dites ne m'étonne pas, » fit le marquis. « Il y a toute une façon d'envisager la vie dans votre pendule, mon cher Norton. Elle ne marque pas le temps, elle l'écrase. » Les Hollandais, qui étaient cependant des gens pratiques, donnaient à leurs horloges une poésie qui sentait le rêve. Ils montraient les bateaux oscillant à chaque seconde, les moulins tournant et perdus de minute en minute, des pêcheurs tirant au bout d'une ligne en fer blanc quelques poissons argentés, et la lune, la pâle lune se levant sur des paysages fantastiques et presque chinois, comme on en voit à Sardam. Mais c'était ces paysages et ces maisonnettes, pour les pauvres gens enfermés dans leurs maisonnettes, auprès du Zuiderzee gelé, une fenêtre ouverte sur l'idéal, et dans la fumée de leur pipe, ils revoyaient leur passé ou leur voyage, tandis que doucement, régulièrement, le tic-tac du balancier berçait leur songerie, silencieuse comme un bon sommeil. Vous, vous faites de vos pendules des mortiers pilons ou des roues mécaniques, et en regardant ce marteau qui tombe et remonte, et retombe et monte encore, pour retomber toujours, je pense instinctivement à tout ce qu'il y a de supprimé, d'aplati et de lourdement assommé dans la vie moderne. Je crois qu'il faut parer les pendules, ces marqueuses du temps qui fuit, comme il faut parer les tombeaux, pour ne mieux masquer la mort sous la poésie et sous les fleurs. Et moi, dit Norton, je crois, et je vous le répète, qu'il faut montrer et célébrer la vie telle qu'elle est, comme elle est, avec ses vérités, ses âpretés, ses pilons de toutes sortes, pour la brasser, la dompter et la faire aimer. Le marquis assis, regarda un moment cet homme taillé comme dans le cœur d'un chêne et qui, debout, ses larges mains posées sur la cheminée, le contemplait avec une expression à la fois joyeuse et pleine de défis contre le sort. « Allons, » dit M. de Solis, « je vois que si vous méprisez si fort le rêve, c'est que vous avez probablement trouvé la réalité du bonheur. » J'avoue que je serais ingrat de me plaindre, et pourtant.
Pourtant ? Demanda le marquis.
Le front dur, osseux, de Norton se plissa comme sous une pensée de mélancolie.
Mon pauvre ami, dit l'Américain, tout le monde a ses peines, ses inquiétudes.
Je vous faisais allusion aux miennes tout à l'heure. J'ai trouvé, moi qui n'avais et n'ai point l'air, n'est-ce pas, d'un héros de roman. La créature idéale est à la fois la meilleure des femmes. J'ai épousé une jeune fille qui est vraiment, vous l'avez peu vue, mais vous la connaissez. Une âme d'élite tout à fait supérieure. Je l'aime du plus profond de mon cœur. Je donnerai en bloc tout ce que je possède pour la voir seulement sourire. Et je me mettrai ensuite vaillamment à la besogne pour lui regagner un luxe nouveau. Et bien cher, tout ce bonheur, tout ce semblant de parfaite félicité qui, certainement, pour les gens qui ne me connaissent pas, pour les quémandeurs, les exploiteurs, les indifférents, les conseilleurs, les reporters qui parlent, à m'en agacer, du richissime Norton.
Richard souriait. Toutes les jouissances apparentes qui, pour les Parisiens, font de moi un être privilégié du sort, enviable à tous les points de vue, tout cela, Solis, cette chance même dont je remercie le sort, ne tient pas devant cette vérité brutale. Je suis inquiet, je suis attristé. Et au fond, tout au fond de l'âme, voulez-vous que je vous le dise? Malgré mon amour de la lutte et du travail, et de tout ce qui est la vraie vie, la vie utile, robuste, généreuse, eh bien voilà, mon cher, je ne suis pas heureux.
Pas heureux?
Ou, si vous voulez, il me semble que tout ce bonheur-là ne tient qu'à un fil. J'ai des terreurs de superstitieux. Bien romanesque, hein, votre ami Norton, pour un Yankee. Et malgré cette pendule utilitaire qui vous déplaît tant, il y a du roman partout, mon bon Solis. Voilà ce que ça prouve. Et plût à Dieu que mon inquiétude fût un roman.
Mais non, Sylvia souffre.
Sylvia ? Répéta le marquis en donnant à ce nom une expression d'émotion singulière que Norton ne remarqua pas.
Elle souffre, je vous l'ai dit, ou du cœur ou des nerfs, qui sait ? Névrose, trouble dans la circulation du sang, menace d'une embolie, pour m'en tenir au diagnostic de Farjas, rétrécissement de la valvule mitrale, voilà le terme scientifique. Et c'est cela qui empoisonne la joie que j'ai de me sentir maître de ma vie, récompensé dans mon labeur, riche, libre, mais avec une menace devant moi, un obstacle, un mur, oui, comme un mur de cimetière.
Maintenant, Solis passait par une sorte d'épreuve nouvelle, et une cruauté satisfaite lui venait à la pensée, lui entrait au cœur, tandis qu'il écoutait silencieusement là. Richard Norton lui confiait ses doutes. Oui, peu à peu, l'Américain laissait fouiller en lui, pénétrer dans sa vie, et machinalement, dans cette causerie avec l'ami retrouvé, disait comment son mariage avec Miss Harley s'était fait. Et 10 fois George l'eût interrompu, prêt à crier « Mais taisez-vous » s'il n'eût ressenti cette amère consolation de savoir, d'apprendre des lèvres du mari lui-même qu'il y avait, comme lendemain à cette union, une déception, une souffrance.
« J'avais, disait Norton, rencontré souvent chez son père la jeune fille que je devais épouser, triste, pensive, très sérieuse. C'est par là qu'elle m'avait séduit. Je ne suis ni pensif ni mélancolique, moi. Les contraires s'attirent. Et comme vous, pourtant, j'hésitais à me déclarer, non pas à cause de ma fortune. Parbleu, non, mais à cause de son intelligence et de sa beauté, de cette grâce qui ne semblait pas faite pour mes grosses mains rudes et mon humeur de bûcheron. Puis un jour, comme, la voyant plus attristée, je me sentis plus ému et plus éloquent, sans le vouloir, je lui demandai si elle ne voudrait pas confier sa peine, car elle en avait, à quelqu'un qui la partagea. Je lui dis que je ne demandais rien au monde que de me dévouer à elle. Il paraît qu'elle devina que je ne mentais guère. Le père était mon ami, il plaida ma cause, la gagna, et nous voilà mariés.
Mariage d'amour, dit Solis, prenant plaisir à s'enfoncer à lui-même un peu d'acier dans le cœur.
L'amour d'un côté, l'amitié de l'autre, répondit Norton, que la question sembla rendre sérieux. Mais des deux côtés, la confiance, la plus profonde et la plus complète. Peut-être y eut-il chez elle comme une hâte de se marier. Pour ne plus hésiter, qui sait, pour oublier, fit-il comme à lui-même. Mais,
et sa voix devint plus résolue. Nous sommes habitués à des unions et à des décisions rapides, et la famille chez nous ne s'en porte pas plus mal. D'ailleurs, il nous suffit d'une parole donnée, du fond du cœur, devant un pasteur qui bénit deux êtres au nom de Dieu, et dans la froideur même de cette cérémonie, il y a une gravité, une simplicité, qui ont leur grandeur et qui me plaisent. « Et la poésie ?» demanda Solis en désignant la pendule. « Oh, la poésie ! La poésie est partout où il y a une affection vraie. On me donnait celle que j'aimais. J'étais, quand je l'épousais, fou de joie, ivre d'espoir, j'étais heureux. Mon cher, mais c'est encore une poésie, le bonheur. C'est peut-être la meilleure. En effet, dit le marquis, très pâle. Et depuis ?
Depuis ?
Norton hésita un moment. Depuis ? Ah, les idylles humaines ne durent pas longtemps. La première douleur pour ma femme fut la mort de son père. Ruiné, le pauvre homme, sans que j'aie su qu'il était embarrassé dans ses affaires, tant il avait la fierté de son honneur commercial, et sans que j'aie pu lui venir en aide. Comment ne l'avez-vous pas appris au moment de son mariage, au contrat ? Le contrat, quel contrat ? Norton riait. Oh, nous n'avons pas de ces discussions d'intérêts amoureux par devant notaire, nous autres. L'Américain épouse celle qu'il aime sans feuilleter le code, et se charge de la rendre heureuse sans qu'un officier ministériel lui en impose l'obligation, par traité discuté comme un procès. Elle apporte pour sa dot sa beauté, lui pour dot son courage. Et en route, à la garde de Dieu. Les parents ont travaillé, amassé, ils sont vieux. Ce n'est pas le moment de leur demander de compter leur fortune et de la diminuer. Ils peuvent passer, les chers aimés, leurs derniers jours sans se priver de rien, vivant en toute justice de ce qu'ils ont bien et dûment gagné. S'ils ont encore de l'appétit et mangent leur fortune, eh bien tant mieux pour eux. Ils l'ont conquise et peuvent la gaspiller, c'est leur affaire. Ma femme ne s'inquiétait pas plus de savoir si son père lui laisserait un dollar que moi de calculer ce que j'aurai un jour de l'héritage. Et voilà, notre affreux mercantilisme yankee, mon cher ami, le voilà. Quoi qu'il en soit, que cette catastrophe ait attristé ma femme, ou qu'une autre tristesse lui tienne au cœur, depuis ce temps, la santé de Mrs. Norton m'inquiète, et je me soucie plus de savoir ce que pense le docteur Farjas que de ce que font les actions de mes mines de pétrole à la bourse de New York ou de Chicago. Et, demanda Solis, peut-être pour détourner sa pensée de Sylvia, vous continuez à diriger de votre cabinet de Paris ces exploitations qui demandent une surveillance de tous les instants? Norton se mit encore à sourire, montrant ses dents saines et fortes dans sa barbe fauve. « Oh, ne craignez rien, mon cher Solis. Le Yankee ne perd pas ses droits. Le câble transatlantique me tient, dans l'hôtel de la rue Rampante ou dans cette villa de Normandie, au courant de mes affaires comme si j'étais assis là-bas à mon office. Je suis un Américain de Paris, mais aujourd'hui, il n'y a plus de Paris et il n'y a plus d'Amérique. Ou plutôt, pour flatter votre chauvinisme, l'univers n'est plus que la banlieue de Paris. » Et vous nous le prouvez puisque vous revenez de l'Aname, comme on revenait autrefois de Saint-Cloud ou de Bougival. Et très enchanté de vous retrouver, de me réchauffer à votre vaillance, mon cher Norton. Mais sa voix qu'il voulait rendre assurée tremblait un peu. Attristé, oui, attristé, de ne pas vous savoir complètement heureux.
Bah,
dit Norton, si vous connaissez le bonheur parfait, vous... « Indiquez-moi où il se niche, cet oiseau fabuleux. »« Je fais monter son nid en topaze. »« Mais surtout, pas un mot de ses inquiétudes à Mrs. Norton lorsque vous la verrez. »«
Pas un mot, sans aucun doute, je vous le promets. »
L'Américain avait, tout en parlant, poussé le bouton d'ivoire d'un timbre électrique. « Voyez si madame est rentrée, » dit-il à un valet qui parut rapidement et s'inclina pour toute réponse. Solis était debout, regardant Norton dont la stature haute se détachait sur l'horizon, le ciel clair, la mer dont le bruissement montait au loin. Il se demandait encore pourquoi il était venu, et s'il ne devait pas dès à présent s'enfuir, ne plus reparaître. Dans quelques minutes, il allait revoir Sylvia. Ce laquais, dont le pas craquait dans l'antichambre, allait prévenir Mrs. Norton. Solis allait se retrouver devant elle. Et cette entrevue, après des années, le mari allait y assister. Elle aurait lieu tout à l'heure. Maintenant, Un silence tombait entre ces deux êtres qui venaient d'éprouver la joie de se revoir, et la conversation, un moment auparavant intime et pleine de confidences, versait dans la banalité, comme si, brusquement, les amis n'eussent plus rien à se dire.
Ah, mon cher Solis, vous nous ferez bien l'amitié d'assister ce soir à un petit concert que donne Mrs. Norton. Vous verrez là la belle Miss Dixon et Mademoiselle Offenburger, qui est adorable aussi.
Oh, on fait ici de très bonne musique, je vous assure. Tous les Américains ne jouent pas du Mozart sur des pincettes. Ma femme est excellente musicienne, et le programme est très choisi. Je sais bien que vous ne viendriez pas pour le programme. Madame, votre mère, me ferait-elle la grâce de vous accompagner? Je vous demande pardon de cette invitation soudaine, mais je ne vous savais pas à Trouville, c'est mon excuse.
Je serais enchanté de venir ce soir, quoique je sois un peu sauvage, dit le marquis. Quant à ma mère, n'y comptez pas, elle n'aime point le monde. Et je ne suis pas bien sûr qu'elle vous pardonne de lui avoir pris son fils même pour un soir.
Alors, à cette heure, mon cher Solis?
Non, je ne dînerai pas, je viendrai plus tard. J'ai promis à la chère femme de la quitter le moins possible, pendant tout le premier mois de mon retour, et je dîne avec elle toute seule.
Oui, nous sommes là, en tête à tête, en petit cabinet, comme deux amoureux.
Et vous avez raison, Solis, deux amoureux, et c'est peut-être cet amour-là qui ne trompe jamais.
J'aurai l'honneur de faire visite à madame votre mère demain, et je la remercierai de vous avoir laissé venir à nous un moment ce soir.
Le marquis retrouvait, dans l'accent que mettait Norton à ses paroles, une amertume plus cruelle encore que tout à l'heure, et de ses yeux clairs, il interrogeait son ami comme pour deviner la pensée attristée de Richard.
Mais le domestique frappait à la porte et, sur un mot de Norton, se montrait bientôt, restant sur le seuil.
« Madame ?»
dit l'Américain.
Madame était encore absente. Mademoiselle Meredith rentrait à l'instant, mais seule.
Mademoiselle Meredith venait, du reste, en avertir M. Norton.
« Eh bien ?» dit Richard avec cette gaieté brusque et mâle qui coupait lestement ces très rares moments de mélancolie.
« Mon cher Solis, vous allez toujours voir ma nièce. »
Et le domestique, s'étant éloigné,
« Ah, cher, vous parlez de mariage.
La jeune fille rêvée, mon ami, idéale, bonne comme le pain, loyale comme sa parole, c'est ma nièce.
Si elle n'était pas américaine, elle ferait absolument votre affaire. »
Norton allait continuer, il s'arrêta. Une voix claire, gaie, sans accès, chantante et caressante, disait au seuil de la porte,
« Suis-je indiscrète ?»
Et Solis apercevait, là, debout, comme hésitant à entrer, une grande jeune fille, élégante et mince, dont les yeux noirs, très vifs, dans un fin visage un peu pâle, le frappèrent tout d'abord. Une robe grise, un mantelet, glissant à demi sur des épaules jeunes et faisant ensuite comme ceinture autour de la taille, et sur des cheveux bruns, frisés légèrement, un petit chapeau presque trop simple, mais coquettement posé. Dans tout cet être, dans cette toilette, dans ce joli sourire, dans ces petites mains gantées de Suède, quelque chose d'une fille de race. Assouplie, pourtant, par une certaine séduction sans façon, la franchise gaie de la grisette avec le port de tête un peu hautain de la patricienne.
Miss Meredith, en s'avançant, Norton l'en priant du geste, salua M. de Solis et attendit que son oncle lui eût présenté le marquis. Puis, au nom de Solis, elle répondit par un mot gracieux, sans fausse politesse. Elle connaissait bien le marquis.
« Mon oncle Richard m'a souvent parlé de vous, monsieur. Je n'ai pas eu le plaisir de vous voir en Amérique. Je suis enchanté, sachant que vous êtes un des meilleurs amis de mon oncle, de pouvoir le faire en France. »
C'était, dans toute sa sincérité, sans façon et sans phrase, l'accueil d'une maîtresse de maison recevant d'un ami. Et la jeune fille semblait une femme mettant à l'aise un de ses hôtes.
Solis était habitué à cette franchise exotique qui lui paraissait cependant inattendu et un peu bizarre en France.
Mais de tout cet être jeune et loyal rayonnait une sorte de grâce particulière. La séduction des yeux sans tristesse, des lèvres sans amertume, du sourire sans ironie d'une belle créature de 20 ans.
« Vous avez laissé Sylvia en promenade ?»«
Non, mon oncle, chez la princesse de Louverchal. »
Madame de Louverchal fait une vente dans sa villa au profit de pêcheurs ruinés par l'ouragan du mois de janvier. Et Sylvia dévalise les comptoirs.
Si elle n'envoie pas tous ses joujoux et ses albums, ses tapisseries aux pauvres, elle encombrera votre maison, je vous en préviens.
« Oh, je ne suis pas inquiet, » dit Norton, « elle les enverra aux pauvres. »
Monsieur de Solis avait son chapeau et esquissait pour sortir un salut un peu pressé.
« Vous nous quittez ?» dit Norton.
« Ce n'est pas moi qui vous fais fuir, au moins, »
demanda Mrs. Meredith en souriant.
« Oh, mademoiselle.
Mais tout en étant ici en villégiature, j'ai un petit travail à expédier.
Oui,
un rapport au ministre des Affaires étrangères.
Une communication sur les établissements d'Hanoï. Et puis, je ne veux pas abuser du temps de Norton. Il est précieux, même à Trouville.
Et jamais aussi bien employé que lorsque je vous vois, mon cher George.
Au moins, à ce soir, n'est-ce pas ?
C'est promis.
Avec plaisir,
dit le marquis, faisant pour dire le mot un léger effort. Il prit la main tendue de Norton, cette main noueuse dont plus d'un calus jaunissait la pomme, et saluant Miss Meredith, il s'éloigna, accompagné par Richard qui, le touchant à l'épaule, le guidait avec le geste familier et dévoué d'un aîné étendant son bras sur le frère cadet.
« Eva, comment trouves-tu le marquis ?» demanda Norton en rentrant à Miss Meredith qui, de ses jolis doigts, maintenant dégantés, réglait sa montre sur la fameuse horloge à pilon.
« Comment je le trouve ?»«
Oui. »«
Mais bien. »«
Très bien. »«
Très bien, si vous voulez. »
Un vrai gentilhomme.
Oui, et un gentleman.
Eh bien, dit Norton en riant, tu vois ce charmant garçon, aimable, distingué, brave et spirituel. Il s'est promis une chose, c'est de n'épouser jamais, jamais une américaine.
Miss Meredith avait remis sa montre dans sa pochette. Elle regarda son oncle bien en face un moment, puis, d'un rire clair et franc, avec une fusée de jeunesse,
vrai,
dit-elle,
il s'est promis ça.
« Eh bien, il est bête, alors !»